Bonsoir, vous écoutez Forum. À Lausanne, quatre policiers municipaux sont accusés d'homicide par négligence après le décès dimanche d'un homme d'origine africaine à l'hôtel de police. Notre enquête dans un instant.
Peut-on critiquer le blocus humanitaire à Gaza sans être accusé d'antisémitisme ou de faire le jeu du Hamas? Et peut-on, quand on est juif, être légitime dans l'espace public sans qu'on vous somme de prendre vos distances avec Israël? Deux invités échangeront sur ces questions dans 10 minutes.
Autre débat, les salaires minimum cantonaux sont-ils en danger? Les syndicats le craignent, ils accusent la droite de vouloir établir une loi nationale pour saper les rémunérations décidées dans les cantons.
Faut-il ouvrir les centres fédéraux d'asile à la population, créer des espaces partagés pour favoriser les échanges et apaiser les tensions? Le Conseil fédéral lance un projet pilote sur cette idée, on en débat.
Dans ce forum également, Europe et patronat suisse, une relation, disons-le, compliquée. Le dollar qui plonge et un gaucher qui fait trembler le tennis mondial.
Forum, c'est jusqu'à 19h sur RTS Première, RTS 2 et l'app Play RTS. Bienvenue.
Forum, Thibaut Chalère, Mehmet Gültaş.
Et on commence avec cette information de notre rédaction. Quatre policiers lausannois sont prévenus d'homicide par négligence après le décès d'un homme dans les locaux de la police municipale de Lausanne. C'était dimanche soir.
Fabiano Citronnier, vous avez enquêté sur cette affaire. Alors tout d'abord, pourquoi ces quatre agents sont-ils poursuivis en justice?
Alors, on peut pas répondre aujourd'hui avec précision à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que ces policiers sont intervenus un moment ou un autre dans l'interpellation du suspect, un homme d'origine africaine. On me dit que c'est un Nigérian, père de deux enfants. Alors, le ministère public devrait établir si les policiers ont commis ou non des actes pénalement répréhensibles.
Et que sait-on ce soir du déroulement des faits?
J'ai parlé avec plusieurs personnes proches du dossier, comme on dit, et des avocats concernés par cette affaire. Je vous donne d'abord la version des policiers. On est donc dimanche soir, deux policiers en service et à pied repèrent deux hommes. Les agences disent que c'est peut-être des trafiquants de drogue. On est au Flon à Lausanne. Les policiers s'approchent et l'un des suspects part en courant. Un des policiers lui court après, course-poursuite qui se termine un peu plus loin. On me raconte que c'est une intervention musclée avec un suspect qui fait de la résistance.
Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Le policier qui est aux prises avec le présumé dealer appelle des renforts et deux agents arrivent en voiture et l'aident à menotter le suspect. Il est alors conduit au poste de police, il se débat pas pendant le trajet et il mourra au poste quelques minutes plus tard.
Et que disent les témoins de cette interpellation?
Alors, avec mon collègue Gaspard Kuhn, on a parlé à pas mal de personnes qui ont assisté de près ou de loin à l'arrestation. D'après ces témoins, le suspect parle en anglais. Et à plusieurs reprises, il a dit au policier « Vous me faites mal, vous me faites mal ». Il y a même un voisin qui promenait ses chiens dans le quartier, qui est passé juste à côté de la scène. Et lui, il me dit, je cite, « J'ai vu le visage de l'Africain écrasé au sol. Il disait en anglais au policier qu'il se sentait mal ». Ce qui est sûr, c'est que cette intervention, elle a marqué les personnes qui ont assisté.
Oui, Fabiano, le suspect a donc été conduit au poste et c'est là qu'il a perdu la vie.
Oui, alors c'est impossible pour l'heure de savoir ce qui s'est exactement passé au poste. D'après le ministère public, l'homme a été conduit à l'hôtel de police pour être auditionné. Et là, il a fait un malaise et il est décédé malgré l'intervention des ambulanciers. Ce qu'on me raconte, c'est que lors de cette intervention, il a recraché plusieurs boulettes de cocaïne. Une autopsie a été ordonnée. Ses résultats permettront d'y voir plus clair.
Et cette affaire, Fabiano, s'inscrit dans un contexte particulier.
Oui, on le sait, on l'a dit plusieurs fois sur ces ondes. Ces dernières années, plusieurs personnes noires ont perdu la vie dans le canton de Vaud après avoir été en contact avec des policiers. Alors, on le précise, aucun policier n'a été condamné en justice, mais la tension, elle est là. La preuve, à l'heure où on se parle, Mehmet, il y a un rassemblement devant l'hôtel de police à Lausanne. Une centaine de personnes bloquent le carrefour. On a repéré deux banderoles. L'une d'elles dit « l'État suisse ». Tue, et l'autre dit « sans justice, pas de paix ». On l'a compris, cette affaire, elle va faire encore beaucoup de bruit.
Merci Fabiano Citronnier. Votre enquête avec Gaspard Kuhn.
Et le syndic de Lausanne est avec nous dans ce studio. Bonsoir Grégoire Junot.
Bonsoir.
On va parler avec vous dans un instant de l'appel de certaines villes suisses pour Gaza, mais d'abord impossible de ne pas vous faire réagir sur ce qu'on apprend à l'instant. Comment vous réagissez à ces révélations?
Bon, j'ai évidemment aucune information, hein. Je découvre les informations que vous donnez aujourd'hui. D'abord, c'est évidemment un drame, et mes condoléances se vend évidemment à la famille. Enfin, tout décès est un drame. Moi, je fais confiance à l'enquête et j'espère qu'elle permettra d'éclaircir les faits en toute impartialité.
Oui, l'enquête est en cours. Derrière ce drame, il y a la lutte très compliquée contre le deal de Russie. C'est un combat perdu d'avance, difficile.
C'est un combat difficile, mais c'est des choses différentes. Le combat contre le deal de rue est un combat dans lequel la police, comme d'ailleurs l'ensemble de la chaîne pénale et d'autres acteurs sont engagés, qui est effectivement un combat difficile. Le métier de policier est un métier difficile, ça n'empêche pas aussi un devoir d'exemplarité, hein, on le dit régulièrement. Les policiers s'y emploient. Ensuite, sur une affaire comme ça, il faut évidemment, une affaire dramatique, il faut qu'on puisse y voir clair. Il y a une enquête administrative, il y a une enquête de justice, et on en saura certainement plus dans les jours qui viennent.
Mais c'est vrai qu'il y a une répétition quand même de ce genre de drame, non, avec à l'égard des personnes racisées.
Pour moi, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Encore une fois, sur les principes, je pense qu'on est tous d'accord. La police a le monopole de la force, elle a une responsabilité, elle accomplit un métier difficile, elle est très largement soutenue par la population pour ce travail-là, et elle a un devoir d'exemplarité. C'est extrêmement important, elle doit pas salir l'uniforme, c'est fondamental. Et on a une justice qui est là aussi pour pouvoir se prononcer et, cas échéant, dénoncer d'éventuelles infractions s'il y a lieu d'en dénoncer. Moi, encore une fois, j'ai pas d'informations sur le déroulement des faits dont vous parlez aujourd'hui.
Merci pour cette réaction, Grégoire Junot. On vous retrouve dans un instant, puisqu'on va parler du Proche-Orient. La nouvelle fondation humanitaire de Gaza a commencé aujourd'hui à distribuer de la nourriture.
Et ce, malgré les nombreuses critiques internationales sur cette organisation, créée il y a quelques mois aux États-Unis, avec une filiale à Genève. Les premières distributions ont donné lieu à des scènes chaotiques, Malika Nedir.
Oui, c'était la première distribution organisée par cette fondation privée sur un seul point de distribution dans le sud de la bande de Gaza. Des milliers de Palestiniens affamés ont accouru pour obtenir un colis. Au début de la journée, la situation était relativement calme. Seules les familles habitant à côté du site, près de Rafah, sont venues chercher de quoi manger. Mais dans l'après-midi, les choses ont dégénéré. Les mercenaires américains présents sur les lieux ont tiré pour disperser la foule. Et le personnel de la Fondation humanitaire de Gaza a dû se replier. Le centre devrait rouvrir demain, dit la Fondation. Il faut rappeler que cette organisation privée s'inscrit dans le plan du gouvernement israélien qui consiste à reprendre complètement le contrôle de l'enclave et reprendre le contrôle de la distribution de nourriture dans la bande de Gaza pour contourner et remplacer les agences de l'ONU. L'objectif, c'est de faire venir la population dans des sites bien précis situés dans le sud pour forcer les Gazaouis vivant au nord à se déplacer s'ils veulent trouver de quoi manger. Il est aussi prévu de vérifier les identités de ceux qui viennent dans ces centres, de rationner la distribution de vivres, tout cela sous le contrôle de l'armée israélienne. Un système inacceptable pour les acteurs humanitaires, les agences de l'ONU, les ONG qui exigent le respect par Israël des principes d'impartialité, de neutralité, d'indépendance de l'aide humanitaire.
Des humanitaires qui dénoncent le blocus imposé par Israël depuis le 2 mars qui affame la population.
Oui, sous la pression internationale, Israël a légèrement desserré le blocus, autorisant l'entrée dans l'enclave de quelques camions par jour. Une goutte d'eau face à l'immensité des besoins, condamne l'ONU. Il faudrait au minimum 500 à 600 camions par jour de vivres, d'eau, médicaments, carburant, estiment les humanitaires. Une aide qu'attendent désespérément les Palestiniens. Écoutez notre témoin à Gaza, Naed. Elle vit sous tente avec sa famille depuis qu'elle a été forcée par l'armée israélienne de quitter la ville de Khan Younes.
Malheureusement, nous sommes toujours dans une tente sous des conditions très mauvaises parce qu'on vit vraiment une période de famine. Ça y est, on est arrivé aux limites, on ne peut plus. Aussi, on attend les aides humanitaires, on les attend avec impatience. Depuis le début de la guerre, on n'a jamais atteint une période comme celle-là. Malheureusement, il n'y a rien dans les marchés, absolument rien. On arrive à voir des petits-enfants qui circulent entre les tentes et demandent, s'il vous plaît, est-ce que vous avez du pain, s'il vous plaît, est-ce que vous avez de la farine ? On n'attend que les aides humanitaires.
Et signalons que vous pouvez entendre plus longuement Naed dans le podcast Naed, une voix de Gaza sur l'application Play RTS. Malika, plusieurs alliés d'Israël dénoncent aujourd'hui ouvertement le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza.
Oui, 22 pays européens ont signé la semaine dernière un appel exigeant d'Israël une levée complète et immédiate du blocus. Ces pays, tout comme l'ONU, tout comme les ONG, rejettent le processus mis en place par Israël visant à réaliser ses objectifs de guerre via des sociétés privées et des mercenaires. La Suisse, rappelons-le, ne s'est pas associée à cet appel des pays européens. ni aux critiques visant la Fondation humanitaire de Gaza.
Merci Malika Nedir.
Mais c'est dans ce contexte que les villes de Lausanne et Genève, rejointes hier par Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, ont publié la semaine dernière une déclaration commune sur la situation à Gaza. Elles y dénoncent des conséquences humanitaires dévastatrices. Elles appellent à un cessez-le-feu et le Conseil fédéral à passer à l'action. On va en parler avec nos deux invités, le syndic de Lausanne, Grégoire Junot, toujours avec nous. Et bonsoir à vous, Johan Gurfinkel.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général de la SICA, de la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation. Grégoire Junot, alors ce genre de prise de position des villes sur un conflit international, c'est pas courant. Pourquoi l'avoir fait? Pourquoi maintenant?
Non, on le fait effectivement pas souvent et je pense que la situation méritait qu'on le fasse parce qu'elle est d'une extrême gravité. Et évidemment, on essaye aussi quand on s'exprime sur des questions internationales, ce qu'on fait quand même de temps en temps, de le faire aussi dans le cadre qui est le nôtre, c'est-à-dire que c'est une résolution une déclaration qui s'adresse d'abord au Conseil fédéral, dont on dénonce le silence, les atermoiements sur la question maintenant depuis de nombreux mois, et qui devient aujourd'hui insupportable. Moi, je suis un patriote, je suis très attaché à mon pays, j'aime mon pays, j'aime notre système démocratique, j'aime nos valeurs aussi, et dans ces valeurs-là, il y a une histoire forte d'engagement humanitaire qui fait partie aussi de l'identité. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le Conseil fédéral s'assied sur une partie de ce qui fait l'identité de la Suisse.
Johan Gurfinkel, le texte publié par les villes de Lausanne et de Genève évoque clairement l'horreur des attaques du 7 octobre, qualifiées de terroristes, et la douleur des otages toujours détenus. Est-ce qu'au fond, vous trouvez ce texte suffisamment équilibré? Est-ce que vous auriez pu le signer?
Bon, alors clairement, je ne représente pas ni la ville de Lausanne ni la ville de Genève, ça c'est leur responsabilité. Est-ce qu'il appartenait à la ville de Genève et de Lausanne de le publier? Ça regarde à la fois chacun de concitoyens qui, comme moi, peuvent en juger. Ils ont souhaité en tout cas le faire, c'est une voix qui est portée, je pense que dans la tradition helvétique qui est la nôtre, et comme le disait Grégoire Junot, et je peux m'inscrire effectivement dans la même ligne, je m'exprime aussi comme un patriote convaincu, attaché aux valeurs de mon pays, et à cet égard, voilà, je suis très respectueux des traditions qui sont les nôtres, dans cet esprit de vouloir travailler dans son domaine, qui est ce domaine humanitaire, avec un grand respect surtout de l'équilibre face à un conflit qui est absolument terrible, qui nous touche au plus haut point, je crois, chacun d'entre nous, et dont on subit très directement, et je le dis dans la position qui est la mienne, les effets directs. Alors on peut en discuter, on a essayé d'invisibiliser cette question de l'antisémitisme qui s'exprime. Je pourrais vous faire une liste très longue sur la manière dont aussi des citoyens suisses de confession juive, ce quotidien qui est extrêmement douloureux et difficile, et dont on ne parle pas beaucoup, et ça n'a rien à voir avec la situation et le drame humanitaire, mais je pense qu'on l'oublie trop souvent, et c'était un peu mon appel, au travers moi, celui aussi des communautés juives, qu'on essaye effectivement de fédérer dans ce message, qui est de dire certes, il y a aujourd'hui un drame humanitaire, certes les villes s'expriment, mais on ne peut pas systématiquement, alors là en l'occurrence c'est pas le cas, vous le payez la question du sort des otages, et on ne peut pas non plus faire abstraction de cet antisémitisme qui se déploie aussi dans nos rues. C'est aussi une réalité qu'on ne peut pas occulter.
Grégoire Junot, là-dessus.
Bon, disons, je pense qu'un des gros enjeux dans cette affaire, si on peut parler ainsi, c'est de bien différencier les choses. Aujourd'hui, c'est pas la communauté juive qui est en jeu, c'est le gouvernement israélien. Je pense que cette différence, elle est fondamentale. Et moi, je redis ici aussi à la communauté juive en Suisse le fait qu'elle doit se sentir en sécurité dans notre pays, que nous sommes engagés contre l'antisémitisme et que d'ailleurs je ne sens pas tellement dans les mouvements de gauche, peut-être à part quelques extrémistes, mais de remise en cause du droit à l'État d'Israël d'exister. Par contre, il y a une compassion pour toutes les victimes. Il y a aujourd'hui une situation qui est abominable. Je veux dire, on est en train d'affamer des gens. Il y a une politique d'un gouvernement qui est abominable. Et je pense que les voix qui s'expriment dans la société civile contre cette situation, et les voix juives qui s'expriment aussi, moi j'ai de leçons à donner à personne, mais je pense qu'elles font du bien. Elles font du bien parce qu'elles soudent aussi notre communauté autour de valeurs qui sont les nôtres, notamment de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, d'attachement aux droits international et au droit humanitaire international, dont la Suisse est quand même dépositaire, et qu'elles sont utiles, comme d'ailleurs les voix musulmanes ont été utiles aussi après les attentats, pour dénoncer régulièrement les attentats.
Précisément.
Il y a eu des prises de position régulières.
Johan Gurfinkel, dans une opinion publiée dans la Tribune de Genève, vous mettez en garde contre un climat où, dites-vous, certains juifs en Suisse se sentent sommés de se désolidariser d'Israël pour demeurer légitimes dans l'espace public, comme les musulmans sommés autrefois de se justifier après chaque attentat islamiste. Au fond, qu'est-ce qui vous dérange dans cette injonction ?
Mais vous le dites et vous avez le bon terme, M. Gultas. C'est effectivement cette injonction, cette essentialisation. Considérer que finalement, notre appartenance religieuse, quelle qu'elle soit d'ailleurs, puisse faire l'objet d'un questionnement et d'injonctions diverses. En l'occurrence, l'injonction, elle est claire, c'est de dire « Soyez des juifs respectables, dénoncez avec force le gouvernement israélien, sinon vous ne serez plus des citoyens à part entière. » C'est un peu le sentiment, et je vais vous dire, les exemples ne manquent pas. Vous l'avez entendu aussi sur une chaîne sur la RTS lors du débat d'Infrarouge, où j'ai entendu, je garde encore en mémoire, les propos même parfois d'un animateur qui disait « Mais où sont les communautés et institutions juives ?» Elles sont suisses avant tout, elles sont citoyennes, elles s'engagent sur les sujets qu'elles souhaitent en tant qu'institutions. On ne peut pas les sommer de se positionner systématiquement au regard de la question et des problèmes qui se posent et du drame qu'on est en train de voir au Proche-Orient. C'est une décision individuelle et personnelle. Ceux qui l'ont fait, et je pense au rabbin François Garay, à la rabbine Orwiller et tant d'autres, leur positionnement, il est individuel. Ils regardent chacun d'entre nous par rapport à une situation internationale, mais il n'est pas question que nos institutions soient sommées et avec cette injonction de devoir réagir systématiquement parce qu'elles sont juives et qu'elles représentent des citoyens suisses de confession juive. Ça, nous ne l'acceptons pas, en fait.
Johann Gurfinkel, quand le cinéaste Jacob Berger dit sur notre antenne, par exemple, qu'il y a une symétrie entre la Shoah et ce qu'il se passe à Gaza, comment vous réagissez à cette déclaration d'une personnalité juive de Suisse romande ?
Alors, un, c'est scandaleux. Personnalité juive, c'est lui qui s'affuble, en tout cas de ce titre. Je n'ai jamais connu Jacob Berger comme étant une personnalité juive en tant que telle. Mais ça, c'est son choix. C'est à lui de se déterminer par rapport à ces questions. Je vous rappellerai notamment que M. Berger, lorsqu'il prenait ce genre de position, notamment infrarouge, a subi aussi les affres de ses voisins de droite à la table, qui lui disaient qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter ce genre de parallèles qui sont parfaitement détestables. Et on l'a dit à plusieurs reprises, d'ailleurs. Il y a un moment donné où on ne peut pas être dans la surenchère permanente. Ce qu'ont fait récemment les conseillers nationaux ou conseillers aux États, et je pense à M. Sommaruga ou M. Poggia, est parfaitement détestable. De parler de notre conseiller fédéral en charge d'affaires étrangères, de le traiter de collabo. Je veux dire, M. Poggia a oublié que lorsqu'il était affublé d'un costume de SS et qu'on avait mis sa photo devant le camp d'Auschwitz, on était les premiers à être à ses côtés pour dénoncer cette campagne qui était odieuse. Il trouvait ça parfaitement indigne et aujourd'hui le voilà qu'il reprend ce genre de travers des dérapages. D'accord. C'est purement et simplement de la surenchère. On essaye simplement de nous dire et de nous faire dire ce qu'on ne veut plus entendre et ce qu'on ne veut pas entendre. L'argument de la Shoah et d'Auschwitz n'est pas aujourd'hui une marchandise qu'on peut balancer à coup de communication en façon permanente. Ça, c'est détestable.
Grégoire Junot, des Juifs suisses se sentent jugés s'ils ne prennent pas leur distance avec Israël. Est-ce que c'est un effet que vous avez mesuré ? Est-ce que ça vous interpelle ?
Chacun est libre, et de ce point de vue-là, M. Gurfinkel a raison, chacun est libre dans sa conscience de prendre la parole ou pas. Moi, ce que je dis, et ce que j'ai dit d'ailleurs à l'inauguration des bureaux de la CICAD à Lausanne il y a quelques semaines, c'est que les voix qui prennent la parole, elles font du bien. Elles font du bien pour différencier précisément les enjeux. Comme d'ailleurs les voix musulmanes qui se sont exprimées à très nombreuses reprises après les attentats, elles ont fait du bien. On vit dans des sociétés en Suisse, dans une ville comme Lausanne, mais c'est pareil à Genève. On a 45% à peu près de la population qui est étrangère, plus de 70% si on compte les doubles nationaux, des confessions, des langues toutes différentes, des communautés qui vivent plutôt bien ensemble. Et tous les rappels qu'on peut avoir de cet attachement au vivre ensemble, à la paix, au respect du droit international, au respect de nos valeurs et de nos engagements, c'est des voix qui font du bien. Après, je ne lance d'injonction à personne. Chacun est libre.
Même pas vos camarades de gauche qui parfois font des raccourcis.
On a des divisions aussi à gauche et à droite. C'est d'ailleurs pas un débat toujours gauche-droite, hein, cet enjeu de la question israélo-palestinienne, de loin pas. Donc il y a des divisions aussi, et ma foi, les divisions, elles font partie du débat politique, mais moi, je lance d'injonction à personne. Je dis juste que ces voix sont utiles parce que je pense que c'est fondamental dans cette affaire d'avoir la liberté aussi de critiquer l'État d'Israël et le gouvernement israélien sans être systématiquement accusé d'antisémitisme. C'est fondamental de pouvoir le dire et le faire. Et pour ça, il faut être précis sur les mots, il faut être prudent aussi sur les termes. Mais il faut reconnaître aussi que toutes les voix qui font cette différenciation, elles sont utiles à notre sentiment de bien-être en communauté.
Johann Gurfinkel, au fond, la meilleure manière, enfin une des meilleures manières de lutter contre l'antisémitisme, est-ce que ce n'est pas précisément de dénoncer, comme l'ont fait d'ailleurs des intellectuels juifs et le président de la Fédération Suisse des Communautés Israélites, le blocus humanitaire imposé par le gouvernement israélien contre la population de Gaza ?
Vous voyez, M. Gultas, on est effectivement dans le même débat. Enfin, je connais un peu le syndic de Lausanne, que j'apprécie et que j'estime beaucoup pour ses prises de position, et je sais combien, quand il dit qu'il est très engagé contre l'antisémitisme, il l'affirme haut et fort, et je le remercie encore parce que j'ai entendu ces mots il y a peu de temps, il avait été assez clair sur le propos. Mais comme vous le rappelez, Monsieur Gultas, effectivement, c'est encore une fois, c'est cette obligation qui serait faite, et cette injonction à nos organisations de devoir se positionner. Si les uns et les autres, et l'occurrence, vous le savez, vous avez fait référence à cette tribune dans la tribune de Genève, dans laquelle je m'exprimais et dans lesquelles les choses sont extrêmement claires. Il appartient à chacun de pouvoir s'expliquer en son, et même se justifier ou pas d'ailleurs, de se positionner en son âme et conscience. Mais à aucun moment, il ne serait acceptable qu'au regard de notre statut ou notre religion, on puisse subir les affres de je ne sais qui pour devoir se positionner par rapport à ce conflit international dont on voit aujourd'hui les débordements. Je veux dire, vous avez peut-être vu d'ailleurs les attaques de Monsieur Thévaux qui essaye d'une façon ou d'une autre de déboulonner la cicade, comme c'est le cas de Miret Zaki encore dans le Blic. Les attaques sont extrêmement nombreuses parce que la cicade se refuse en tant qu'organisation de se plier à cette injonction. Par contre, c'est pas le meilleur moyen de lutter contre l'antisémitisme. Le meilleur moyen de lutter contre l'antisémitisme, c'est de le dénoncer avec force et d'arrêter de vouloir l'invisibiliser au regard de la situation humanitaire et le drame humanitaire qu'on vit au Proche-Orient aujourd'hui. C'est ça la meilleure moyen et de rappeler un certain nombre de fondamentaux, comme l'a fait le syndic de Lausanne, et de dire que l'antisémitisme n'est pas acceptable et qu'au nom du prétexte à la défense d'une cause ou une autre, on ne peut pas accepter que dans nos rues, on voit des drapeaux du FPLP, du Hamas et un certain nombre de propos qui sont juste inqualifiables.
Et sur
c'est
le
comme
fond,
ça qu'on lutte contre l'antisémitisme.
Et sur le fond, John Gorfinkel, est-ce que notre conseiller fédéral, Ignacio Cassis, ne devrait pas être un peu plus actif à vos yeux?
Alors, ça c'est la question, elle est très ouverte et j'ai envie de dire, ça le regarde. J'ai écouté avec attention les propos de Monsieur Bideau, donc le directeur de la communication du DFAE, sur Infrarouge il y a quelques jours. J'ai entendu un propos qui me paraissait assez limpide et comme citoyen, j'ai trouvé que la position qu'il adoptait et celle du DFAE était parfaitement alignée avec la tradition très helvétique en termes de neutralité et d'engagement humanitaire. Mmh. C'est un point de vue très personnel et encore une fois, il faut bien dissocier les choses entre les interventions à caractère individuel et les interventions collectives ou institutionnelles. Ce ne sont pas les mêmes et encore une fois, nous ne céderons pas sur ces injonctions et on veut rappeler qu'encore une fois, notre légitimité elle tient sur les enjeux qui sont des enjeux nationaux, des enjeux suisses, d'accord, et pas systématiquement de devoir se justifier face au drame humanitaire qu'on est en train de vivre au Proche-Orient.
Grégoire Junot, est-ce qu'on peut vraiment séparer humanitaire et politique dans un conflit aussi polarisé?
Bon, c'est pas seulement un drame humanitaire. Enfin, c'est pas un drame humanitaire qui se. Enfin, on n'est pas dans une situation de famine qui serait liée à des conditions climatiques. On est quand même dans des conditions d'un gouvernement israélien qui aujourd'hui, avec l'armée, disons détruit un territoire de manière systématique, ses hôpitaux, ses écoles, tue des civils, affame maintenant une population, veut reprendre le contrôle de la bande de Gaza, relance la colonisation aussi en Cisjordanie. Enfin, il y a une source quand même à cette crise humanitaire. Elle découle pas elle n'est pas arrivée toute seule. Faut quand même, disons, il y a un devoir d'expression sur ces questions-là. Le gouvernement suisse, il a tergiversé quelques jours, mais il a pris des sanctions très claires au moment où la Russie a violé le droit international. Aujourd'hui, il y a de nombreux pays en Europe qui se mobilisent, qui disent ben il faut peut-être qu'on revoie nos relations économiques aussi avec l'État d'Israël. Et c'est encore une fois, c'est pas la communauté juive qui est en jeu ici, mais on a bien quand même des encore une fois, on est dépositaire des conventions de Genève et aujourd'hui on s'assied dessus dans ce pays. Il y a Monsieur Cassis a célébré les conventions de Genève l'année dernière et en même temps on a l'impression que c'était un discours, c'était un peu du vent. Et moi je suis extrêmement déçu et je suis choqué aussi, je dois dire, de cette position du gouvernement suisse.
Merci à tous les deux pour ce débat. Grégoire Junot, syndic de Lausanne, Johann Gorfinkel, secrétaire général de la CICAD, coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation. On vous souhaite une belle soirée à tous les deux.
Merci.
Merci à vous, messieurs. Demain.
Et ne manquez pas notre matinale spéciale. Ça, c'est demain de 7h à 8h30. Gaza et maintenant. Vous pouvez nous envoyer dès maintenant vos questions, vos réactions, vos messages vocaux aussi sur WhatsApp. C'est au numéro 079 134 34 70. Je vais le répéter. 079 134 34 70. Et puis, on signale le podcast Naed, une voix de Gaza. C'est sur Zoom Info dans l'application Play RTS.
Et maintenant, on va passer à un sujet économique. On va parler de l'euro qui se porte bien par rapport au dollar, qui se porte plutôt mal. Le billet vert décroche fortement par rapport à la monnaie européenne. 10% de perte de valeur, la proportion est la même par rapport au franc suisse. Jamais depuis une décennie, le dollar n'avait connu une telle dépréciation. Alors on en parle avec vous, Valérie Lemaigre. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste en chef à la Banque cantonale de Genève. Alors, déjà, l'explication, comment expliquer que le dollar soit en perte de vitesse ?
Alors, il est en perte de vitesse essentiellement ou avec une telle ampleur vis-à-vis du dollar et du franc suisse. C'est moindre vis-à-vis du yen. Et puis, si on regarde d'autres devises comme le dollar canadien, qui est important aussi pour les États-Unis, on a une proportion qui est bien moins importante. Donc, on passe du simple au double. Donc, on a une distinction au niveau de cette dépréciation du dollar. Alors, elle s'explique dans un premier temps par des craintes, une perte de confiance par rapport à la rentabilité, on va dire, des investissements financiers aux États-Unis.
Pourquoi ?
Alors pourquoi ? Parce que depuis quelques mois, on le sait tous, on a une imprévisibilité de la politique américaine. Et puis dans un autre temps, je pense que ce sur quoi il faut insister, c'est que les devises qui s'apprécient le plus vis-à-vis du dollar sont les devises avec lesquelles les États-Unis ont un déficit commercial important. Donc on a un peu les lois économiques qui reprennent le dessus par rapport à justement cette évaluation du dollar. On ne doit jamais oublier que le dollar est l'ambassadeur des États-Unis, ce qui représente donc la crédibilité vis-à-vis de la politique menée aux États-Unis.
Donc la conséquence pour les Américains, pour les États-Unis, c'est surtout cette perte de crédibilité ou c'est un risque économique ?
Alors jusqu'à présent, je dirais que la perte de 10%, vis-à-vis des autres devises, cette perte-là, c'est finalement une correction par rapport à l'appréciation auquel on avait assisté en fin d'année dernière. Vis-à-vis de l'euro, du franc suisse et de la livre sterling, on a quand même une tendance qui est en train de se mettre en place et cette tendance est un peu plus forte que juste la correction d'appréciation. Donc, si on a un mouvement de dépréciation vis-à-vis de tout le monde, tant qu'il est géré autour de 10%, ça va. Les impacts sont relativement limités, vont être limités, on va dire, au niveau négatif à l'inflation aux États-Unis. Si par contre vous dérapez bien au-delà de ces niveaux de 10%, voire 15 à 20% de dépréciation, là, les effets sont importants, notamment pour l'inflation américaine et la gestion de cette politique de taux d'intérêt qui peut se complexifier encore avec ces pressions-là.
Et peut-on pour autant dire que l'euro est en passe de supplanter le dollar comme monnaie de référence internationale ?
Alors, j'irai pas trop vite dans ces termes de dédollarisation ou bien de l'euro qui, pense, c'est un vœu pieux de Madame Lagarde qu'elle a prononcé récemment.
La présidente de la Banque Centrale Européenne,
Exactement. Attention qu'elle ne l'a pas sorti comme ça, mais sous condition de mettre en place de nombreux avancements dans les réformes européennes. Donc, tout ça ne vient pas en une fois. Maintenant, ce qui est clair, c'est que les problématiques sur le commerce mondial et les problématiques sur le commerce américain peuvent enclencher quelque part une volonté de travailler de plus en plus en segmentation entre régions et avec les devises des régions. Donc à terme, ça pourrait effectivement réduire le rôle de monnaie de réserve des États-Unis.
Merci beaucoup pour vos explications très claires, Valérie Lemaigre. Vous êtes économiste en chef à la Banque cantonale de Genève. On vous souhaite une excellente soirée.
Excellente soirée à tous vos auditeurs.
Merci beaucoup.
Thibaut Chalère, Mehmet Gültaş.
18h28, vous écoutez Forum dans quelques instants. Ne manquez pas le portrait assez savoureux de Jack Draper, le gaucher qui fait frémir le tennis mondial. Mais d'abord, de la politique avec des salaires, les salaires minimaux qui seront une fois de plus au cœur des débats lors de la prochaine session parlementaire qui commence lundi à Berne, avec un vote qui pourrait bien mettre fin au salaire minimum approuvé dans les urnes à Genève ou à Neuchâtel.
Oui, le Parlement avait décidé que les conventions collectives de travail, les CCT, devaient primer sur les règles cantonales en matière de salaire. Le principe posé, on débat maintenant de la loi concrète et l'Union syndicale suisse, l'USS, a déjà montré les dents ce matin en conférence de presse. Bonsoir Pierre-Yves Maillard.
Bonsoir.
Vous présidez l'USS, vous êtes conseiller aux États vaudois socialistes. C'est donc vous qui relancez en quelque sorte les hostilités aujourd'hui. Et bonsoir à vous Fabio Regazzi.
Bonsoir à vous aussi.
Conseiller aux États du Centre tessinois et patron de l'USAM, l'Union suisse des arts et métiers. Je commence avec vous Pierre-Yves Maillard. Je le disais, le principe a été accepté, la loi arrive, hein, fait sa route, fait son chemin. Que lui reprochez-vous ?
C'est vraiment pas très pour nous acceptable d'entendre dire que c'est nous qui relançons les hostilités. Au contraire, on pensait que les choses avaient été bien faites. Il y avait eu un débat sur l'introduction d'un salaire minimum en Suisse qui a été largement refusé, avec l'argument que ces salaires minimaux devaient être introduits à l'échelle locale. Dans certains cantons, ça a été fait. Bâle-Ville, par exemple, mais également Genève, Neuchâtel. Dans certaines villes, il y a eu des votations favorables. Winterthur, Zurich, le canton du Tessin, avec des modalités diverses d'articulation avec les conventions collectives. Mais Genève et Neuchâtel, par exemple, la loi prime les conventions collectives, ce qui a abouti, par exemple, à Genève, à ce qu'environ 25 000 salariés connaissent une hausse de salaire de 200 à 300 francs. Et puis, après coup, le Parlement, enfin la majorité du Parlement, puisque nous on était contre, dit non, on revient sur ces votations, on revient sur ces législations. C'est un comportement de mauvais perdant qui consisterait donc tout à coup à faire primer des conventions collectives nationales de force obligatoire qui ont parfois des salaires un peu plus bas que le salaire minimum et qui ferait donc concrètement qu'à Genève, une vingtaine de milliers de personnes verraient une baisse de salaire. C'est donc pour la première fois, je crois, dans l'histoire du pays, le Parlement décide de baisser le salaire de dizaines de milliers de gens à Neuchâtel, à Genève. On a beaucoup entendu dire des exagérations de salaire chez les top managers. Là, il était question de plafonner ces salaires, donc de les baisser. Le Parlement n'ose pas toucher à ces très hauts salaires, mais pour les bas salaires, il ne craint pas de prendre une décision législative qui concrètement baisserait de 200, 300 francs le salaire de milliers de coiffeuses, de serveurs et de personnes concernées.
Fabio Regazzi, si le Parlement adopte donc ce projet de loi, des milliers de travailleurs au salaire minimum risquent de perdre une part importante de leurs revenus essentiels pour vivre, nous dit l'Union syndicale suisse. Est-ce que vous trouvez cela acceptable ?
La question n'est pas si ça c'est acceptable. Simplement, tout d'abord, et Monsieur Maillard l'a précisé, on parle des contrats collectifs qui ont été déclarés de force obligatoire. Dans les autres contrats collectifs, dans les autres domaines, les cantons ont toujours la possibilité de légiférer, de fixer des salaires minimaux. Moi, je pense que la question de fond est quelle est la valeur, quelle est l'importance du partenariat social. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est quelque chose de très important qui a contribué à former la Suisse telle qu'on la connaît. Et je suis un peu surpris que les syndicats ne reconnaissent pas cette importance. Parce que moi, je pense que c'est plus important une négociation qui a été faite entre les patrons et entre les syndicats et qui tient compte de toute une série de facteurs, parce qu'on parle que de salaire ici. Mais il y a aussi d'autres éléments qui sont traités dans un contrat collectif. Et si un canton décide de vouloir prévoir des règles pour les salaires minimaux, à mon avis, tout d'abord, c'est un patchwork au niveau cantonal, parce que aussi il y avait eu des votations au niveau des communes ou de villes. Ça, c'est déjà une chose qui est problématique. Ouais. Mais à mon avis, c'est réduire l'importance du partenariat social, qui pour moi n'est pas une bonne chose.
On y vient. Une CCT, Pierre-Yves Maillard, c'est négocié entre les partenaires sociaux. Au fond, c'est très suisse. Pourquoi ça doit être inférieur à une loi sur un salaire minimum ?
Non, mais le contrat, en principe, dans tout ordre juridique normal, est inférieur à la loi. On a des, dans la législation, un droit aux vacances, par exemple, de 4 semaines. Aucune convention collective ne peut déroger à ça. Mmh. On a des allocations familiales, des montants minimaux dans la loi fédérale. Aucune convention
collective. Oui, ça, c'est pour le principe, mais on parle d'une négociation. Alors, dans une branche.
Pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des conventions collectives qui ont été signées avec des salaires inférieurs au salaire minimum genevois, ce qui est compréhensible puisque justement les patrons nous disent quand on négocie à l'échelle nationale, on peut pas faire tous les salaires comme si tout le monde vivait à Genève. Donc forcément, les salaires nationaux sont parfois inférieurs au salaire minimum genevois. Mais pour autant, à Genève, quand la loi est votée, quand le peuple a parlé, eh bien, les gens doivent s'adapter. C'est-à-dire que même si on est dans une CCT de force obligatoire avec des salaires un peu plus bas, eh bien, on adapte ces salaires les plus bas au salaire minimum tel que la loi le prévoit. Elle doit s'imposer. Ce que M. Regazzi nous dit qu'il aime le partenariat social. Mais concrètement, ça va provoquer quoi, cette affaire? Quand il y aura le renouvellement de la convention nationale, de la coiffure, par exemple, ou de la restauration, eh bien, les syndicats qui ont signé cette convention nationale seront devant le dilemme suivant. Soit on renonce à la convention nationale parce que les patrons veulent pas adapter le salaire au niveau que certains cantons ont fixé. Donc, on renonce à couvrir des centaines de milliers de gens dans toute la Suisse qui verront donc leurs conditions de travail se dégrader. Ou alors, on signe la convention et on demande la force obligatoire. Et de fait, on baisse les salaires dans les cantons qui ont fixé des salaires minimaux un peu plus hauts. C'est nous placer devant une alternative absolument impossible. Et donc, ça va aboutir, au contraire, à affaiblir le partenariat social. Parce qu'il y a à parier que dans certains domaines, les conventions collectives ne seront plus signées parce qu'on sera placé devant cette alternative.
Fabio Regazzi, qu'est-ce que vous répondez à cet argument qui consiste aussi à dire, voilà, il faut tenir compte des réalités locales, si j'ose dire, notamment à Genève, par exemple, effectivement, où la vie est relativement plus chère qu'ailleurs. Est-ce qu'il ne faut pas adapter justement ces salaires par rapport à ces conditions plus locales?
Moi, je pense que les salaires minimaux ne sont pas une bonne solution. Je pense au contraire que c'est le rôle principal des partenaires sociaux de régler tout ce qui concerne les conditions de travail, y compris bien évidemment les salaires. Mais je trouve que c'est faux de donner cette compétence à une loi cantonale, parce que je pourrais me demander d'une façon un peu provocatoire, on n'a plus besoin des syndicats si on va déléguer toutes les décisions qui concernent les rapports de travail au niveau des partenaires sociaux au peuple. En plus, il faut rappeler que le droit du travail est, selon la doctrine et la jurisprudence, est de compétence de la Confédération. C'est la Confédération qui doit réglementer ça. Et maintenant, on veut dépasser ça en donnant la compétence au canton, ce qui est très discutable aussi du point de vue de la constitutionnalité.
Oui, mais qu'est-ce que vous dites aux jeunes voix, aux Neuchâtelois, à vos compatriotes, si j'ose dire, tessinois, qui ont voté en faveur d'un salaire minimum, votre volonté ne compte pas?
Non, c'est pas que votre volonté ne compte pas. Alors, elle compte pour tous les domaines qui ne sont pas réglés par des contrats collectifs, des conventions collectives qui ne sont pas de force dérogatoire. Alors, il y a une bonne partie pour lesquelles les salaires minimaux seront appliqués. Mais je dis simplement, s'il y a un partenariat social en Suisse, il faut donner la compétence aux partenaires sociaux de régler ces domaines aussi pour ce qui concerne les salaires. Et les syndicats doivent simplement faire bien, comme ils le font parfois ou souvent, leur boulot et traiter et négocier pour obtenir des conditions meilleures. Ce sont les règles de notre système et je ne vois pas parce qu'il faut les changer.
Pierre-Yves Maillard, un mot quand même sur ces disparités des cantons. On a accepté ces salaires minimaux. Pourtant, le peuple suisse l'a refusé. C'est une façon de grignoter du terrain là pour les syndicats.
Mais encore une fois, moi je suis choqué de voir ça. Le salaire minimum genevois, voté par les genevois après un débat démocratique, les patrons étaient contre. Monsieur Regazzi dit clairement il est contre les salaires minimaux. Ben tant pis. La majorité du peuple a voté pour cette disposition. Et ça gêne en quoi un Tessinois ou un Obvaldien que les salaires minimaux genevois soient fixés comme ils l'ont été. Ça gêne personne. Et notre confédération est conçue sur l'idée que quand un canton veut décider quelque chose et que ça gêne pas les autres confédérés et que c'est conforme à la Constitution, eh bien, il peut le faire. Le tribunal fédéral, et c'est là le plus choquant de l'affaire, le tribunal fédéral a justement autorisé, contrairement à ce que dit Fabio Regazzi, a autorisé les cantons à fixer des salaires minimaux au niveau du minimum vital. Il dit, en gros, vous pouvez, les cantons, vous pouvez décider que assurer le minimum vital pour quelqu'un qui travaille à plein temps, c'est déléguer à son employeur. Il doit lui garantir un salaire qui confirme le minimum vital. C'est-à-dire, en gros, on donne autant, une fois qu'on a payé toutes les charges, à quelqu'un qui a bossé à plein temps qu'à quelqu'un qui est à l'aide sociale. Et on entend maintenant des gens qui prétendent vouloir défendre la valeur travail contester ce principe. Un canton ne peut pas fixer un salaire minimum n'importe où, il peut le faire qu'au niveau du minimum vital. Et c'est ça qui est contesté, et c'est ça qui est absolument choquant.
Pierre-Yves Maillard, vous avez posé une question. En quoi ça gêne un Obvaldien ou un Zougois, par exemple, qui a un salaire minimum voté par le peuple à Genève? Fabio Regazzi, vous avez la réponse?
Encore une fois, je dois me répéter. Alors, si on croit au partenariat social en Suisse, alors je ne vois pas pourquoi les accords qu'on trouve entre les partenaires sociaux, qui sont discutés, négociés, parfois durement, doivent être mis à côté seulement parce qu'un canton décide de fixer un salaire minimal. Et minimal. En plus, en Suisse, il y a eu une votation populaire très clair.
C'était un salaire national, c'était pas cantonal.
On ne voulait pas des salaires minimaux. Alors, celle-là est aussi démocratie.
Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. On aura l'occasion d'y revenir, je le sens. Pierre-Yves Maillard, président de l'Union syndicale suisse et conseiller aux États vaudois socialistes, et Fabio Regazzi, conseiller aux États du Centre Tessinois et patron de l'USAM, l'Union suisse des arts et métiers. Bonne soirée à tous les deux. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonsoir.
18h40, vous écoutez Forum. Savez-vous qui est Jack Draper? Pas un personnage de Pirates des Caraïbes, non.
Non, le Britannique est le 5e joueur mondial en tennis et pourtant c'est un quasi inconnu du grand public. Et il est en ce moment sur le court à Roland-Garros où on vous retrouve Bernardin Lehmann. Alors Jack Draper est-il à mettre parmi les favoris ou en tout cas les sérieux outsiders du tournoi?
Oui, très clairement. C'est vrai qu'on attend Jack Draper, évidemment un peu moins peut-être que Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, mais tout de même. Vous savez, Jack Draper, on l'avait découvert l'an dernier, le Britannique, lorsqu'il est arrivé en demi-finale de l'US Open, alors qu'il n'avait même pas commencé l'année dans les 50 premiers. Et puis, que dire alors de cette année? Il confirme avec un 8e de finale à l'Open d'Australie. Il remporte Indian Wells, qui est un des Masters 1000, des grands tournois, juste derrière les grands chelems au mois d'avril. Et puis derrière, alors, il est en finale à Madrid sur terre battue, alors qu'on disait que les Britanniques ne savaient pas jouer sur terre battue. Il confirme ensuite en étant battu que par Carlos Alcaraz à Rome. Et là, aujourd'hui, eh bien, il joue en effet face à un spécialiste de la terre battue, un Italien, Bellucci. Duel de gaucher d'ailleurs, assez beau. Il a mal commencé, mais il s'est bien repris, Jack Draper, dans cette partie du premier tour.
Mais alors, qui est-il ce joueur qu'on découvre un peu avec vous, avec ce portrait?
D'abord, c'est un très grand joueur, 1m93, vraiment très très athlétique, une grosse force, le gaucher, donc ça aide toujours un petit peu sur le circuit, c'est peut-être pas le nouveau Nadal, mais tout de même. Et puis c'est l'an dernier, lorsqu'on l'a découvert, tout le monde disait, mais c'est un homme qui sait tout faire, sur un court de tennis, à côté, parce qu'aussi un beau gosse, il a un peu une tête d'acteur américain des années 50, donc il a peut-être pas pour le service, mais disons que ça joue un rôle quand on veut se faire connaître. Il a fait beaucoup de shooting photo, il a joué beaucoup il a joué un peu au top model, mais sur un terrain, c'est peut-être le successeur britannique d'Andy Murray. Les Britanniques qui attendent vraiment un joueur, et maintenant il est dans le top 5. Et ce joueur-là, en plus, s'engage beaucoup à l'extérieur. Il a interpellé avec d'autres Keir Starmer, le Premier ministre britannique, parce qu'il manque quand même beaucoup d'infrastructures sportives, notamment en tennis en Grande-Bretagne. Il a dit, il y en a 3 fois plus en France, 5 fois plus en Allemagne. Et puis bon, en Angleterre, on sait ce que c'est. Il pleut souvent, donc il faut des courts de tennis avec des toits. Voilà, on verra ce que Starmer va répondre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fait beaucoup parler de lui et surtout qui fait des résultats assez exceptionnels.
Ouais, presque un politicien, ce Jack Draper. Un mot très bref sur l'entrée dans le tournoi de Novak Djokovic. Facile pour lui?
Bon, on va être bref, comme il l'a été sur le court. 6-3, 6-3, 6-3. Pas trop de soucis face à Mackenzie McDonald. Voilà, il s'est plaint un peu du vent. Il a demandé à ce que le toit soit fermé, etc. Il a fait un peu son Djokovic aussi. Mais en tout cas, au niveau sportif, entrée tranquille pour le vainqueur du tournoi de Genève.
En tennis, oui, effectivement, il a gagné Genève. Le toit est important en tennis. On l'aura appris avec vous, Bernardin Lehmann. Bonne soirée du côté de
Paris. Bonne soirée.
Dans un instant, on accueillera un historien pour évoquer le grand patronat suisse et l'Europe. Mais avant cela, place à un nouveau débat dans ce forum. Faut-il ouvrir les centres fédéraux d'asile à la population?
Et oui, puisque le Conseil fédéral a accepté de lancer un projet pilote sur proposition de la conseillère nationale écologiste Greta Gysin. Son idée, créer des espaces partagés entre requérants et habitants. Bibliothèque, café, place de jeu, une manière de favoriser les échanges et peut-être de faire baisser les tensions. On va en parler avec nos deux invités, la conseillère nationale verte genevoise Delphine Klopfenstein-Brogini, bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir à vous également, Pascal Chapuiseau. Vous êtes conseiller communal PLR à Boudry, chargé des relations avec le centre fédéral d'asile notamment. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors parlons de ce centre de Boudry, Pascal Chapuiseau, qui a souvent été pointé du doigt pour des problèmes d'insécurité, des nuisances. L'an passé, le Conseil fédéral s'était engagé à améliorer la situation. Aujourd'hui, qu'en est-il?
Alors écoutez, les informations que j'ai datent d'environ un mois en arrière, donc jusqu'à un début d'année, il y avait une certaine amélioration et puis on constate actuellement qu'il y a de nouveau des problèmes générés autour de ce centre.
Et à quoi on peut les attribuer ?
Alors, c'est une augmentation d'une criminalité sous-jacente qui fait qu'il y a de nouveau des petits vols, des vols de voitures, des vols à l'intérieur des voitures, dans des commerces et puis aussi dans des habitations.
Mmh. Qu'est-ce que vous pensez, Pascal Chapuiseau, de ce projet pilote qui prévoit donc de rendre ces centres plus accueillants avec des espaces partagés entre résidents et habitants? Est-ce que vous y êtes favorable?
En tout cas, pas opposé. Il faudrait voir de quelle manière on met ça, mais je pense pas que ça va résoudre le problème de la criminalité proche des centres. Par contre, c'est vrai que, en tout cas, à Boudry, on a toujours été un peu une terre d'accueil et puis une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir rencontrer ces différentes personnes qui viennent de d'autres pays avec leurs problèmes. Ça pourrait être intéressant.
Delphine Klopfenstein-Brogini, alors on a entendu la réalité du terrain en quelque sorte, ces problèmes de petite criminalité, ces vols. Est-ce que ouvrir les centres d'asile, c'est une bonne idée suffisante pour limiter cette criminalité?
Oui, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée parce qu'on change en fait de logique. Aujourd'hui, ces centres fédéraux ont été très orientés autour de la restriction des libertés, autour du principe même en partie semi-carcéral, et puis sur les restrictions de type fouille, de type mesures disciplinaires. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, et on n'est pas les premiers à le dire ici, c'est qu'on a eu un rapport d'ailleurs très clair du juge Oberholzer qui nous disait, eh bien, il y a des recommandations à faire parce que on n'atteint pas les objectifs, et puis surtout l'écrasante majeure partie des gens qui sont dans ces centres, qui posent aucun problème, eh bien, se retrouvent dans des situations qui sont difficiles. Donc, évidemment, le fait d'avoir une autre logique, et c'est une excellente idée de ma collègue Greta Gysin du Tessin, verte conseillère nationale, eh bien, c'est de faire un projet pilote, de tester au fond un autre système, un système qui soit beaucoup plus ouvert sur l'extérieur, qui permette une meilleure intégration pour une meilleure cohabitation. Oui. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des centres aujourd'hui qui existent, à Chiasso par exemple, où on a fait des améliorations tout dernièrement, avec par exemple des salles de sport, des terrains de basket, des espaces pour le hobby, et on voit au fond que le fait d'adapter la structure permet aussi une meilleure cohabitation et puis finalement de vivre aussi plus sereinement. C'est des personnes qui ont des parcours de vie difficiles, on doit leur permettre de vivre dans des conditions qui soient décentes.
Oui, mais Delphine Klopfenstein-Brogini, certains diront que le cœur du problème, ce n'est pas l'acceptation des migrants par la population, c'est plutôt le comportement de certains résidents. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Eh bien, est-ce que ça justifie le fait qu'aujourd'hui, la majeure partie de ces CFA, de ces centres fédéraux, eh bien, ils sont organisés sur la restriction? Ils sont organisés sur le principe du semi-carcéral. On le voit très bien, ou alors ils sont orientés, comme on le voit à Genève, le prochain centre CFA ouvrira ses portes en septembre. Il y a une inauguration prévue en juin. Eh bien, ce centre est juste à côté des pistes de l'aéroport, juste à côté des routes, très loin de là où les gens habitent. Et puis, on voit au fond que cet isolement est extrêmement vraiment néfaste. Donc l'idée ici, et je pense qu'elle est vraiment excellente, on a aussi des exemples, notamment à Zurich, hein, avec dans le Kreis 5, où on a un exemple de centre fédéral qui est en partie ouvert sur la population. L'intérêt, évidemment, c'est qu'il est aussi dans un rayon d'action avec du monde qui habite, mais avec aussi un café interactif. Et ce lien qu'on a entre la population qui habite autour et la population qui habite dans ces centres, il est essentiel. Il est essentiel pour une meilleure cohabitation, pour une meilleure compréhension et au final pour plus de sécurité, avec à la fin, et ça c'est intéressant de le dire, des coûts réduits en termes de sécurité.
Pascal Chepuisieux, qu'est-ce que vous en pensez? Boudry a mis sur pied certaines choses, certains échanges entre la population et les résidents. Ça n'a pas porté ses fruits, c'était décevant ou ça a quand même changé la donne?
Alors écoutez, une certaine partie de la population et une certaine partie des requérants, ça a changé la donne, effectivement. On a mis en place différentes choses, notamment vivre ensemble, où il y a trois personnes qui sont sur tout le littoral neuchâtelois, en tout cas la partie ouest, qui sont là pour favoriser l'intégration entre les requérants et la population, qui répondent à l'ensemble des questions des deux partenaires, on dira. On a aussi mis la possibilité à ces requérants de pouvoir travailler dans les communes. Donc, ils touchent aussi une petite rémunération. C'est donc du volontariat avec une petite rémunération. Ils participent aux travaux d'entretien dans la commune. Donc, ils sont au contact direct de la population et c'est très bien apprécié. La seule chose, c'est que parmi ces gens qui vont travailler ou qui participent avec la partie vivre ensemble, il est clairement compliqué de se rendre compte qu'il y a une minorité qui ne joue pas ce jeu et puis qui se permettent, malgré, comme certains le disent, que c'est une prison, d'être à l'extérieur à minuit, 2h du matin pour faire des activités illicites. Donc c'est bien de ceux-là dont ça pose problème, dont il faut régler le problème. Après, je pense que l'intégration avec les autres, il n'y a aucun problème. Je prendrai juste un exemple. Dans une classe d'école primaire ou secondaire, quand on a 24 élèves, puis qu'on en a deux qui foutent le bordel, en général, c'est toute la classe qui en subit les conséquences. Et puis, si on veut intégrer ces deux personnes-là, en général, ça marche pas bien. Qu'est-ce que l'enseignement nous dit? C'est qu'on doit prendre des mesures un peu plus sévères. C'est un peu la même chose avec ça. Et on a vu, et on est tous inquiets, c'est qu'avec la fermeture du centre des Verrières, on ne sait pas ce qui va se passer pour Boudry.
En quelques mots, Delphine Klopfenstein-Brogini, sur cette question-là, c'est une minorité. Ouvrir les centres d'asile, au fond, ça va sans doute rapprocher une majorité des résidents et de la population, mais cette minorité, elle demeure, en quelques secondes.
Alors très clairement, c'est qu'il faut aussi adapter. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la majorité de ces personnes dans ces centres ont besoin d'être hébergées de manière plus digne. Et un projet pilote comme celui-ci permettrait clairement d'avoir une plus grande protection. Et puis à côté de ça, évidemment, pour des cas qui sont compliqués, pour des cas récalcitrants, pour des cas qui sont isolés et qui sont minoritaires, évidemment, on doit trouver des solutions qui soient adaptées. Mais il n'y a aucune raison d'avoir une systématique de l'ordre de l'enfermement ou du semi-enfermement ou du contrôle systématique pour l'ensemble de ces personnes, parce qu'encore une fois, ces personnes, l'écrasante majorité de ces personnes, avec elles, ça se passe bien et elles ont besoin de pouvoir se développer, être ici dans des conditions qui soient respectueuses et qui soient dignes.
Merci à tous les deux pour cette discussion. Delphine Klopfenstein-Brogini, conseillère nationale verte genevoise, et Pascal Chepuisieux, vous êtes conseiller communal PLR à Boudry. Une bonne soirée à tous les deux.
Merci. Merci, bonne soirée.
Et on va conclure ce forum avec un historien, vous l'avez promis. Bonsoir Ludovic Iberg.
Bonsoir.
Vous signez Le Grand Patronat Suisse et l'Europe de 1957 à 1984 aux éditions Alphil. Vous vous penchez dans cet ouvrage sur le rôle des grandes fêtières économiques suisses face à l'un des dossiers majeurs de la politique nationale, des relations avec l'Europe. Un patronat qui, comme vous le montrez, a cherché à tout prix à préserver son accès au marché européen, tout en refusant de s'engager dans une construction européenne perçue comme trop étatiste. On a envie de dire, ce grand patronat suisse, c'est un numéro d'équilibriste au fond.
Alors le grand patronat suisse, effectivement, donc représenté en l'occurrence par une organisation que j'ai étudiée en détail, qui est Économie Suisse, qui s'appelait à l'époque le Vorort, donc dont on faisait le dirigeant, le huitième conseiller fédéral en règle générale dans la politique, notamment la politique économique, mais aussi en particulier la politique extérieure de la Suisse, qui doit effectivement équilibrer des intérêts qui sont particulièrement divergents à la base, parce qu'évidemment il y a des secteurs qui sont plus tournés vers l'exportation, il y a des secteurs qui sont plutôt repliés sur le marché intérieur, il y a des secteurs qui dépendent de taxes douanières, il y a des secteurs qui dépendent massivement de l'importation de matières premières. Donc effectivement il s'agit de d'équilibrer tout ça, d'où l'intérêt d'avoir une organisation qui a toujours été une organisation puissante en Suisse, qui a paru en 1870, qui a fêté un siècle et demi d'existence et qui a pesé effectivement très très lourd dans la politique étrangère et la politique européenne du pays.
Et comment ils ont fait la synthèse, par exemple, entre les industriels qui doivent exporter, les paysans ?
Alors, la Suisse, évidemment, est un pays d'exportation par excellence. Donc, on peut voir actuellement, si on prend des chiffres actuels, 40% pardon, des exportations du pays sont du fait de la chimie et de la pharmaceutique. Donc, il y a des secteurs de pointe à haute valeur ajoutée qui dominent très largement ce patronat. On peut citer la pharma, évidemment, la chimie, l'horlogerie. Ce sont des secteurs qui sont très importants, les machines, et qui vont impulser une ligne au sein de l'organisation et que les autres vont suivre de manière générale.
Alors vous le disiez, on découvre dans votre livre un patronat particulièrement actif et influent, non seulement sur la politique intérieure mais aussi sur la scène européenne. Vous parlez même d'une diplomatie parallèle menée par ces milieux économiques. Ça se passe comment concrètement ? Quels sont les relais, les lieux de pouvoir ?
Alors les organisations patronales ont leur propre lieu de rencontre à l'échelle européenne. Évidemment, il y a les institutions diplomatiques, l'Union européenne, anciennement la Communauté économique européenne, mais il y a aussi les organisations patronales qui ont leur propre lieu d'échange, de sociabilité aussi, mais
leur
d'intérêt.
Leur propre ambassade, en quelque sorte.
En quelque sorte, en tout cas, leur lieu de lobbying, on peut le dire comme ça, effectivement, et qui échangent sur des projets. Et pour la Suisse, c'est un intérêt fondamental pour le gouvernement suisse d'avoir des acteurs patronaux qui participent à ces réunions, parce que la Suisse n'est pas membre, comme vous le savez, de l'Union européenne, elle n'était pas membre de la CE, et le fait d'avoir des acteurs patronaux qui sont au courant dès le départ des projets et qui peuvent influer sur ces projets ou qui peuvent aller sonder l'opinion des membres du patronat européen avant même que les projets soient soumis aux États, c'est un intérêt stratégique pour le gouvernement suisse. Donc on assiste à des moments, à des situations où le gouvernement suisse demande en quelque sorte au patronat d'exercer une influence sur ces organisations.
Vous parlez même de guerre économique menée par la Suisse. Il y a cette création aussi de l'AELE, cette fameuse association européenne de libre-échange. En quoi elle correspond aux aspirations suisses dans la construction européenne ? C'est une sorte de mini-Europe vue par la Suisse idéale ?
Alors, il faut se remettre dans le contexte post-45 où vous avez des États, après la libération, vous avez la Grande-Bretagne, les pays scandinaves qui mènent des politiques sociales très attendues. On pense notamment à la fondation du NHS en Grande-Bretagne, donc la sécurité sociale. En France, en Italie, à certaines périodes, vous avez le Parti communiste qui pèse un tiers de l'électorat. Donc, pour les milieux dirigeants de ces pays, l'intégration est une échappatoire. C'est-à-dire que ça va permettre de libéraliser les économies de l'extérieur tout en proclamant que les politiques sont menées à Bruxelles et qu'on n'y peut rien, mais en fait c'est des politiques qu'on avait voulu mener depuis des décennies à l'intérieur du pays et qu'on ne pouvait pas à cause des rapports de force nationaux. Par contre, pour le gouvernement suisse, qui mène une politique libérale sur le plan économique depuis la fin du 19e siècle, avec évidemment des variations au fur et à mesure des périodes, mais qui n'a jamais mené une politique keynésienne en termes économiques, donc de relance étatique, d'investissement étatique, l'intégration est très clairement européenne, est très clairement considérée comme une menace, d'où la fondation de l'Association européenne de libre-échange en 1960, de montrer aux acteurs européens qu'on a une association qui ne prévoit pas de politique économique commune, qui ne va pas rapprocher les politiques sociales les unes des autres, qui fonctionne uniquement sur le business. Si
Cette politique-là, vous le soulignez, est menée dans l'ombre, elle échappe largement au débat démocratique, sauf que tout change en 1992, c'est la première fois que la population est véritablement appelée à se prononcer.
Alors oui, il y a déjà une consultation populaire en 1972, donc sur l'accord de libre-échange entre la Suisse et la CEE, qui est toujours en vigueur d'ailleurs, et qui a débouché sur un véritable plébiscite, donc le Conseil fédéral qui a distribué 140 tonnes de matériel de votation, donc c'est du jamais vu à l'époque, et qui a distribué un tout ménage national pour faire accepter cet accord. Mais l'accord, au moment où il est soumis au peuple, a déjà été signé par les acteurs, a déjà été soumis au Parlement. Le peuple n'a qu'à dire, ratifier en quelque sorte une politique qui est déjà menée depuis longtemps. Par contre, pour la votation de 1992, je pense qu'effectivement, il y a un choix qui est beaucoup plus libre, en tout cas, de la part du corps électoral. C'est-à-dire que ça va vraiment déterminer le destin européen de la Suisse pour les prochaines décennies. On en est beaucoup plus conscient. Donc je pense qu'effectivement, le scrutin de 1992 a son importance dans ce contexte.
Ludovic Hyberg, si l'on compare avec aujourd'hui, la ligne n'a finalement pas beaucoup changé, surtout depuis que la construction européenne est devenue elle-même beaucoup plus libérale, non ?
Alors effectivement, au début des années 2000, on avait environ la moitié des 31 pays européens qui étaient gouvernés à gauche. Maintenant, on n'en a plus que 8. Donc on voit qu'on a une montée de l'extrême droite partout dans l'Union européenne, des politiques libérales qui sont menées, des politiques qui correspondent finalement bien aux intérêts des acteurs patronaux en Suisse. Donc au fur et à mesure que cette intégration européenne a tendu vers une intégration qui allait de plus en plus vers une libéralisation des économies, avec notamment aussi l'adhésion de la Grande-Bretagne en 1973 qui a joué un rôle déterminant dans cette libéralisation des économies via la Commission européenne, on a senti des acteurs suisses qui étaient beaucoup plus intéressés par cette intégration européenne, qui étaient disposés à aller plus loin dans leur rapprochement institutionnel avec l'Union européenne, tel que c'est le cas des bilatérales 3 actuellement, alors que cette question était tout simplement impensable dans les années 60.
Merci beaucoup pour vos explications. Ludovic Hyberg, vous signez Le Grand Patronat Suisse et l'Europe de 1957 à 1984 aux éditions Alphil. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Merci, on passe à la météo. Avec demain du soleil le matin, puis des nuages de plus en plus nombreux, quelques pluies arrivant par le nord-ouest, plus rares sur le Jura et l'ouest lémanique. Température entre 12 et 22 degrés avec un vent d'ouest modéré sur le plateau. Et puis de jeudi à samedi, temps ensoleillé chaud, jusqu'à, tenez-vous bien, 30 degrés, orage possible samedi soir.
On se réjouit.
Dimanche, retour des nuages et quelques averses.
La météo avec VZ, le conseiller financier pour votre retraite et vos placements, vzch.com.
Infotrafic RTS.
Le centre-ville de Lausanne est congestionné. Il est conseillé d'éviter les routes qui convergent vers le secteur délimité par la rue Saint-Martin et celle du docteur César Roux.
Et voilà, c'est la fin de cette édition de Forum. On remercie à la technique Yanis Bordas, Jonah Dubois, Kianou Kombo Nagaimont, Ludovic Labra, Brian Lani et Ilian Wenger. À l'édition, à la production, Thibaut Tchérig, Valérie Lepage et Renaud Malik. Il est bientôt 19h. Voici les informations. Bonne soirée.